Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, j'ai terminé le cours en invoquant le paradoxe que vous ressentiez peut-être dans le choix d'intégrer les daimonos, dont je vous parle depuis maintenant trois semaines, donc d'intégrer ces figures à une réflexion sur la représentation des dieux qui tente de mettre en relation les traditions narratives et les cultes. Puisque, comme je vous l'ai rappelé ou je vous l'ai appris la semaine dernière, un chercheur éminent comme Marcel de Tienne, qui a fourni des réflexions extrêmement pertinentes sur cette notion de daimon, considérait, je le cite, que le daimon n'était défini ni par une représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel. Donc, c'est ainsi que j'avais terminé le cours de la semaine dernière. Cela peut sembler paradoxal que je convoque cette notion dans ma réflexion, alors que j'insiste continuellement sur la nécessité, pour comprendre le système auquel nous avons affaire, de combiner à la fois les traditions narratives et les cultes. Si le daimon n'apparaît pas en contexte cultuel, pourquoi l'ai-je convoqué ? Et donc, c'est à affronter ce paradoxe que je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui, dans la mesure où le terme apparaît dans un type de document dont la portée cultuelle est incontestable. Et donc, c'est ce dossier que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui est un dossier bien circonscrit, et un peu fourni, mais bien circonscrit. Et pour ce faire, je voudrais vous emmener, comme lors de ma leçon inaugurale de décembre 2017, en Épire, dans le nord-ouest de la Grèce, où se trouve le sanctuaire de Dodone, d'où nous est parvenu un corpus documentaire absolument exceptionnel. Alors, je le rappelle, l'oracle de Dodone fait partie, donc qui se situe ici en Épire, dans un site où, curieusement, les nuages arrivent toujours d'une manière ou d'une autre quand on le visite. Et donc, l'oracle de Dodone fait partie des oracles les plus célèbres de la période archaïque à la période hellénistique, à l'instar de l'oracle de Delphes, mais pour des raisons légèrement différentes. Toutefois, quand à Delphes, c'est Apollon qui se fait l'écho, qui se fait le porteur de la volonté de son père Zeus, à Dodone, c'est Zeus lui-même auquel s'adressent les consultants de l'oracle. Ou plutôt, on va le voir, il s'adresse à Zeus et à une divinité féminine que les gens du lieu lui ont associée, à savoir Dionée, donc Dionée ou Diona, selon le dialecte auquel on a affaire. Et comme l'écrivait très joliment le regretté Walter Burkert, un des plus grands savants en matière de religion, de connaissance, pour la connaissance de la religion grecque, donc Walter Burkert écrivait qu'avec Zeus et Dionée, nous avions en fait affaire à Monsieur et Madame Zeus, dans la mesure où le nom de Dionée est formé sur la racine de celui de Zeus, Dios, au génitif, donc Monsieur et Madame Zeus, ce qui est une image assez jolie. Alors, les textes littéraires qui évoquent Dodone privilégient toutefois la figure de Zeus comme maître de l'oracle, mais dès que nous disposons de documents issus de la pratique oraculaire elle-même, et non des documents littéraires qui y font écho, ce sont Zeus Naios, hein, c'est une épiclèse topique, et Dionée qui apparaissent dans l'écrasante majorité des demandes mentionnant les destinataires. Donc c'est vraiment le couple auquel s'adressent les consultants de l'oracle, même si les mentions littéraires de cette structure oraculaire favorisent généralement Zeus. Alors, c'est un lieu qui a fait l'objet, enfin la moisson documentaire du lieu a fait l'objet de publications importantes ces dernières années, dans la mesure où les lamelles oraculaires, dont je vais vous montrer quelques exemples, les lamelles oraculaires qui ont été mises au jour dès les premières fouilles du site au XIXe siècle, la quantité de ces lamelles n'a cessé de s'accroître et leur, euh, leur caractère exploitable a été amélioré par des techniques modernes ces dernières décennies. Et donc, j'épingle ici quelques publications importantes, fondamentales pour notre connaissance de ce corpus. Vous avez tout d'abord le premier véritable corpus qui a été dédié à ces documents, qui a été publié à Genève en 2006, donc sous la plume d'Éric Lhote, qui reste un des maîtres d'œuvre du déchiffrement de ces documents difficiles. Et donc, dans ce corpus, Éric Lhote publiait 167 documents. Esther Edino, dans sa thèse, la publication de sa thèse, a ajouté quelques documents à cet ensemble et en a donné une interprétation. Et puis, alors, ce qui a véritablement constitué un saut qualitatif, enfin, surtout quantitatif, par rapport à ce corpus, c'est la publication par des collègues grecs, dont vous voyez le nom à l'écran, de plus de 4000 documents associés à l'oracle de Dodone. Et donc, quand vous combinez la publication d'Éric Lhote et celle de Dakaris Vokotopoulou et Christidis, on a vraiment là un corpus absolument exceptionnel. Alors, Parker a donné un article très très important aussi sur le contenu de ces lamelles. Puis en 2017 ont été publiés les actes d'un colloque qui s'est tenu à Athènes ou à Yanina, je ne sais plus. Un colloque donc sur ce corpus avec de très intéressantes publications. Et alors j'épingle tout particulièrement un projet en cours. Ici vous voyez une partie de la page d'accueil. Un projet en cours sur le net qui s'appelle Dodona Online, qui est dirigé par Pierre Bonnechère de l'Université de Montréal. Et vous retrouvez dans l'équipe Éric Lhote, que j'évoquais il y a un instant, qui, dans cet ensemble qui est en voie de constitution sur le net, est en train de livrer progressivement, avec la collaboration de Yann-Mathieu Carbon, un choix d'inscription oraculaire de Dodone, donc une sorte de sous-ensemble de ce projet général. Et je tiens publiquement à remercier Éric Lhote de m'avoir permis ici, pour cette occasion, de produire quelques-unes de ces lectures qui ne sont pas encore disponibles en ligne, mais dont j'ai pu disposer. Parce que ce sont vraiment des documents difficiles. Il faut une compétence de linguiste très, très approfondie. Donc, les consultants. Je reviens à mon corpus une fois que je vous ai soumis la bibliographie. Les consultants peuvent être des cités à titre officiel. C'est une possibilité, mais finalement la proportion est assez faible de ces cités à titre officiel. Ce sont surtout des individus qui apparaissent sur les lamelles, et vous allez le voir par tous les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, les préoccupations dont ces documents témoignent sont touchantes, de familiarité humaine. Il s'agit de la réussite d'une entreprise professionnelle, d'un voyage, d'un mariage, l'espérance d'une descendance, un souci de santé, la préservation de ses biens, du bien-être de sa famille, la pertinence d'un déménagement, voire d'une migration. Donc, un éventail de préoccupations qui nous parle évidemment encore très directement aujourd'hui. Alors, on ne saisit pas vraiment, loin s'en faut, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder, la manière concrète dont l'oracle fonctionnait, qui écrivait les questions, qui les recevait, quelle était la procédure mise en place par le personnel de l'oracle pour fournir les réponses. Que devenaient les lamelles après usage, puisqu'on voit que certaines d'entre elles ont été remployées sur place. Donc il y a toute une série de questions qui restent ouvertes et dont on peut espérer que la progression de ce magnifique projet nous permettra de les affronter avec davantage d'éléments en main. Donc je laisse de côté la question du fonctionnement pour m'attacher véritablement aux documents qui nous sont parvenus. Donc, l'ensemble des lamelles à disposition aujourd'hui, en dépit du caractère très lacunaire d'un grand nombre d'entre elles, parce qu'il y a plus de 4000 documents dans le corpus grec dont vous avez la référence ici, mais certains documents sont extrêmement difficiles à déchiffrer ou sont extrêmement lacunaires. Donc, en dépit de ce caractère lacunaire, on peut repérer dans cet ensemble différents formulaires dans le libellé des questions. Et comme l'a bien souligné Éric Lhote dans sa publication de 2006, on peut dégager deux types de formulaires qu'il a respectivement qualifiés de formulaires en TINI et de formulaires en AI, donc formulaire en TINI acquis, formulaire en AI si, la question si, et puis vous avez le libellé. Et ce constat de 2006 a été encore renforcé davantage par la publication du corpus de 2013. Donc, formule en TINI, donc une évocation d'abord, vous allez voir le contenu de cette invocation, un tel, donc le nom du consultant, ou de la consultante, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cet ensemble, un tel, donc, ou une telle, demande à Zeus, Naios et à Diona, ou Dionée, auquel des dieux ou des héros il pourrait sacrifier et adresser des prières pour agir au mieux avec profit. Donc là, vous avez le formulaire en TINI, donc auquel des dieux ou des héros, c'est là qu'est le cœur de la question dans ce formulaire, dans cette formule, puis la formule en est, un tel demande à Zeus, Naios et Diona s'il est mieux et plus profitable pour lui de faire telle ou telle chose. Donc voilà les formulaires les plus constants, les plus récurrents que l'on trouve dans ce corpus. Et voilà quelques exemples du type de document concret auquel nous avons affaire. Et vous voyez, bon, certains sont extrêmement corrodés parce que les lamelles étaient pliées. Et donc, certaines ont été retrouvées pliées. Et donc, après, il y a un certain nombre de problèmes. Vous voyez que la lecture, évidemment, à l'endroit des plis, est extrêmement difficile. Et donc, vous avez ici un ensemble de petit échantillon de ce type de document. Alors, quelques formules en « est », donc en « si », peuvent être des mélanges qui paraissent a priori peu efficaces. Voilà deux exemples. Alors, donc, ici, c'est la référence au corpus grec et à l'intérieur, la numérotation des lamelles. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a, et ça semble complet, « si je sacrifie au dieu au héros ». Ça semble être, en fait, une erreur de formulation. Vous avez ici « si en priant les dieux », et puis on n'a pas le reste. Et donc, vous voyez ici les combinaisons de différentes formules. Ou encore cette remarquable variation dans la construction verbale de la lamelle. Donc ici, je vous ai mis la transcription que l'on trouve dans le corpus de 2013. Donc je lis la traduction avec vous. « Dieu, bonne fortune. Agatharcos demande à Zeus, Naos et à Diona à propos des maladies qu'il a dans le corps. » Si, en se tournant vers les dieux, il recouvrera la santé. Alors, on imagine mal que l'oracle ait répondu non. Mais on n'imagine pas plus facilement qu'il ait répondu par un simple oui. Donc ici, on voit bien qu'on a affaire à une formule qui a été quelque peu décalée, c'est-à-dire modifiée. L'identification des dieux vers lesquels Agatharcos pouvait se tourner était probablement implicite dans la question. En fait, la question, c'était une question en TINI. Pour mes problèmes de santé, vers quel dieu ou quel héros dois-je me tourner ? Même s'il ne l'a pas formulé explicitement de cette manière. Donc, on le voit d'emblée, des variations formelles existent, indépendamment de la variété des préoccupations elles-mêmes. Et si je me concentre sur la première formule, celle en TINI, qui est celle évidemment qui m'intéresse le plus, on constate que l'invocation peut être présente ou non, donc le dieu, bonne fortune, on l'a parfois, mais parfois on ne l'a pas. Le verbe exprimant la demande peut varier aussi. Donc ici, vous avez, voilà, épérote, mais vous avez des variations possibles dans cette formule. La question est parfois directe. Les dieux du lieu se ramènent, donc ici, les dieux du lieu se ramènent parfois au seul Zeus, mais c'est rare, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou bien Zeus est parfois appelé simplement Tonteon, le dieu du lieu, ça va de soi. Une fois, Dionée apparaît seule. C'est dans la lamelle du corpus d'Éric Lhôte en 2006, donc la lamelle numéro 91. Et on ne comprend pas bien, au vu de la question, ce qui peut justifier ce choix. Je lis la traduction avec vous. « Dieu, bonne fortune », donc voilà la vocation. « Lokiskos demande à Diona au sujet de son travail s'il peut avoir du succès et s'il agit au mieux en voyageant par les mers. » On ne sache pas que Dionée ait une quelconque compétence particulière en affaires maritimes. Donc ici, voilà, le genre de puzzle auquel nous sommes confrontés quand on travaille sur les polythéismes. Pourquoi, dans ce cas-là, a-t-il interrogé tout particulièrement Dionée ? Nous ne le savons pas. Alors, toujours dans les variations de la formule en TINI, On a aussi différents verbes pour exprimer le rituel qui est à accomplir. Ici, vous voyez, vous avez l'expression « loyon kai ameinon prasoi », mais vous avez des cas... Voilà, je vous ai mis quelques cas différents ici en mettant chaque fois en évidence le verbe qui est utilisé. Je lis les traductions avec vous. Ménès demande au dieu, donc vous voyez là, pas de Zeus, Naios et de Dioné, c'est simplement Tonteon. Ménès demande au dieu auquel des dieux il faudrait rendre un culte, donc c'est comme ça que j'ai traduit Thérapeuein, pour agir au mieux. Le dieu est censé savoir de quoi il s'agit. Dieu bonne fortune, Antiochos demande à Zeus et à Diona, là ils sont tous les deux, au sujet de sa santé, de celle de son père, de celle de sa sœur, lequel des dieux ou des héros il pourrait honorer pour que cela soit profitable et bénéfique. Et donc vous voyez ici, vous avez le verbe timan, qui est simplement la référence au fait de rendre hommage. Et enfin, ici, vous avez... Ilascoma, et Dieu bonne fortune, Onésimos demande à Zeus, Naios et à Dioné, auquel des dieux ou des héros il doit, enfin, lequel, pardon, des dieux ou des héros il doit se concilier pour être en bonne santé, réussir, là on a des lacunes qui nous empêchent d'avoir une vision claire de la fin de la rédaction de la tablette. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, vous l'aurez peut-être déjà pressenti, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette formule antini, c'est la détermination des catégories d'entités à honorer. C'est évidemment du pain béni pour moi, hein, qui travaille sur la catégorisation du divin, de voir cette articulation qui apparaît dans les lamelles de Dodone. Donc, détermination des catégories d'entités à se concilier, à honorer, auquel offrir un sacrifice, adresser une prière... Car la caractéristique de cette formule de demande, telle que donc l'a reconstruite Éric Lhôte, est qu'elle construit deux niveaux de requête en vue de l'accomplissement des attentes du consultant. Le premier niveau, c'est la consultation de l'oracle. C'est de cela que la lamelle témoigne. L'interrogation de l'oracle, dont on espère qu'il identifiera le bon destinataire. Et le second niveau, mais alors qui est implicite dans la requête, et la démarche rituelle elle-même qui sera accomplie à l'égard de l'interlocuteur divin ou héroïque qu'aura désigné l'oracle. Donc vous avez ces deux temps qu'impliquent les textes en question. Alors certaines demandes semblent combiner les deux formules. Vous avez ici cette lamelle où Callicratès demande au dieu s'il lui, alors je mets s'il lui, mais fondamentalement en grec, c'est s'il me sera donné d'avoir une descendance de Niké, la femme qu'il a, ce passage de la première à la troisième personne peut apparaître dans les lamelles, ce qui laisse peut-être entendre qu'ici le consultant écrit ça lui-même. Donc, Callicratès demande au dieu s'il lui sera donné d'avoir une descendance de Niké, la femme qu'il a en restant avec elle, et auquel des dieux il doit adresser une prière. Vous voyez ici, la formule a été retournée. Au lieu que l'on ait auquel des dieux il doit adresser une prière pour avoir une descendance de Niké, il y a une sorte de court-circuit qui s'opère entre les deux dimensions. Alors, une femme peut... Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des femmes dans ce corpus de consultants, et donc une femme peut aussi demander à Zeus Naios de l'éclairer sur lequel des dieux elle doit prier. Dans cette perspective, je lis avec vous, Dieu, Clunica, demande à Zeus Naios et à Diona que des enfants lui naissent d'un autre homme et auquel des dieux elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Donc, ici, vous avez là encore une sorte de court-circuit, puisque elle demande au dieu de l'oracle que des enfants lui naissent. Alors, d'un autre homme, l'a-t-il quitté ? Est-il mort ? Nous n'en savons rien. Et auquel des dieux elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Mais donc, vous voyez ici une femme qui n'est pas définie ni par le nom d'un père ou d'un mari qui se présente comme telle à l'oracle. Alors, quantitativement parlant, je reviens donc à la question des destinataires, la formule associant les dieux et les héros est moins bien attestée que la formule qui évoque lequel des dieux. Comme dans les deux cas qu'on vient de voir, dans le cas de Callicratès et de Clunica, vous voyez, c'est simplement auquel des dieux. Kina ka theon, lequel des dieux elle doit honorer. Et déjà dans le corpus de l'hôte en 2006, si l'on considère les textes assurés sans restitution, on compte 5 fois l'expression « auquel des dieux et des héros », donc « ou des héros », pardon, c'est une alternative, « auquel des dieux ou des héros », contre 10 fois l'expression simple faisant référence au seul dieu. Donc il y a un rapport de 1 à 2 dans cette affaire, et le corpus de 2013 n'est venu que confirmer cette tendance. Donc la question la plus générale, c'est « auquel des dieux ?» une sorte de vision générique. Mais, dans la moitié des cas, on a quand même auquel des dieux ou des héros. Quant à la chronologie des documents, ce qu'on pourrait s'interroger, est-ce qu'il y a un effet de l'histoire sur ce choix de demander à quel dieu ou de présenter une alternative? Mais en fait, la chronologie des documents ne permet pas de dessiner une quelconque évolution dans le choix de l'une ou l'autre expression, puisque les deux expressions sont attestées dès le début de notre documentation, donc dès le début des lamelles. Elles sont toutes deux attestées donc, dès les débuts, à savoir de la fin du VIe siècle, début Ve, avant notre ère jusqu'au IIe siècle, quand on finit d'avoir des lamelles à disposition. Ce qu'il faut souligner et qui va me retenir à présent, ce sont les variations qui viennent s'ajouter à cette alternative Dieu, Dieu ou héros. Et la première variation que je vous soumets, évidemment, et qui justifie que je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est la question des daimonos. En effet, cette lamelle ajoute un troisième élément à la simple alternative Dieu ou héros. Je lis avec vous, Dieu bonne fortune, Evandros et sa femme, vous voyez là ils sont deux et la femme est anonyme, demandent à Zeus Naios et à Diona, auquel des dieux ou des héros ou des daimonos, que je ne traduis toujours pas, adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux avec profit, eux-mêmes aussi bien que leur famille, maintenant et pour toujours. Alors, ce texte est connu depuis longtemps, depuis l'édition des fouilles du site de Dodone par Constantin Karapanos en 1878, dans un ouvrage intitulé en français « Dodone et ses ruines ». Vous m'excuserez, mais j'aurais dû aller visiter l'oracle de Dodone pour savoir que faire pour ma santé. Et donc, ce texte est daté par Éric Claude des 3e, 2e siècles. Le document est donc bien ancré dans la période hellénistique. Or, avant cette période, un même type de catégorisation à trois éléments apparaît chez Platon, dans des contextes qui ont des implications culturelles normatives. Et alors cette norme, évidemment, elle est très idéale, puisque ce sont les lois de Platon qui nous présentent cette structure à trois éléments. Et j'avais brièvement évoqué la semaine dernière déjà un passage des lois, souvenez-vous, pour vous montrer à quel point la dichotomie olympien-actonien était finalement très réductrice au vu de la variété des catégories que nous avons à disposition, par exemple dans les lois de Platon. Mais ici, c'est juste pour vous rappeler qu'on a déjà vu passer ces éléments. Alors, on retrouve évidemment les trois éléments, mais ce qui m'intéresse surtout, aussi bien dans les lois que dans la République, c'est la mise en schéma presque, enfin en tout cas c'est celle que je vous propose, des théoi, des daimonos et des héroos, voire les héros sont parfois simplement qualifiés d'enfants de Dieu, donc sont les demi-dieux, les héros en tant que fils d'un dieu, d'une divinité, fils d'un ou d'une mortelle. Et en fait, quand Platon organise les cultes et les honneurs à rendre au sein de sa cité idéale, il évoque ces trois catégories. Il évoque ces trois catégories, et ici, évidemment, à ce stade, je ne parle absolument pas de la notion de daimon philosophiquement chargée, telle qu'on la trouve aussi chez Platon. Ici, je m'en tiens à l'ancrage cultuel qu'il met en place dans la manière dont il pense les honneurs divins au sein de sa cité idéale. Et donc, quand il pense ses honneurs, il juxtapose les dieux, les daimonos, les héros, et donc vous avez ici, vous voyez, différents exemples qui soutiennent ce point de vue. Alors, avant Platon, un tel cursus honorum, j'ai repris l'expression de l'ouvrage de Timotine, la démonologie platonicienne, qui a été publiée en 2012 et dont vous avez la référence complète sur une diapositive antérieure dans le cours, mais je trouvais que l'expression était très heureuse, un cursus honorum entre les dieux, les daimonos et les héros. Donc avant Platon, ce cursus se serait déjà trouvé chez les anciens pythagoriciens, si l'on en croit des témoignages, mais et c'est notamment de ça que De Tienne avait traité dans son ouvrage dont je vous ai longuement parlé la semaine dernière. Donc ce triptyque aurait déjà été présent chez les anciens pythagoriciens avant Platon, mais le problème c'est que la plupart des documents sur lesquels se fonde cette analyse relèvent du néo-pythagorisme, donc bien plus tard, et il est difficile de les projeter sur les époques anciennes. C'est pour ça que je ne convoquerai pas ce point à ce stade, et l'hypothèse de l'antériorité de la structure est de toute façon assez fragile. Donc, pour vous montrer qu'avec Evandros et sa femme, on n'a pas quelque chose qui surgit de nulle part. On a déjà chez Platon, mais bon, c'est Platon, j'en ai parlé la semaine dernière, dans cette cité idéale, on a cette structure en trois éléments. Et c'est de culte qu'il s'agit. Alors, je reviens à Evandros et sa femme. Alors, si cette lamelle était restée un apax, donc un élément unique, dans la série des consultations, on aurait pu faire l'hypothèse qu'Evandros n'était pas nécessairement le paysan un peu lourdeau que certains voulaient voir en lui, mais bien un consultant éduqué, conscient de cette hiérarchie des êtres élaborée dans des êtres divins, dans des contextes de réflexion philosophique. Pourquoi Evandros ne serait-il pas formé, éduqué à cette hiérarchie ? Alors, l'autre volet de l'alternative était de considérer ce qui fut fait, que la structuration en question n'était pas forcément le produit de la seule spéculation intellectuelle. Donc, alternative, soit ceci est inspiré par la culture d'Evandros, la culture philosophique présumée d'Evandros, ou on considère que non, et que cette lamelle identifie une structuration qui est indépendante de cette réflexion intellectuelle et philosophique. Alors, le caractère unique de cette formulation dans le corpus des questions posées à Dodone ne permettait pas d'aller plus loin. Tant qu'on n'avait que cette lamelle avec à trois éléments, c'était difficile de trancher l'alternative. Alors, la poursuite de cette investigation dans le cadre de l'oracle a été ouverte par la manne des lamelles, publiée en 2013 par les collègues grecs. Et je voudrais vraiment saluer cette publication qui ouvre des perspectives tout à fait remarquables. En effet, donc, il s'est avéré que deux autres lamelles dans ce vaste corpus de plus de 4000 éléments faisaient apparaître les daimonos dans une question formulée en tini, pour reprendre l'expression d'Éric Claude. Alors, voilà une des nouvelles lamelles qui présente cette structure, je lis avec vous. Dieu, donc voilà la vocation, Dieu, damainetos à propos de proxénos. Donc là, on n'a qu'une partie de la formule. Hein. Vous voyez, on n'a pas le verbe de la question, on n'a pas le destinataire de la question. Dieu, damainetos, à propos de proxénos, comment il réchappera de Méliteia et auquel des dieux ou des daimonos adresser des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieux. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez spécifique. Là, on sort un peu de la formule. Elle est adaptée. Alors, donc il s'agit, vous l'aurez remarqué, d'une consultation par procuration. Un certain proxénos, qu'on ne connaît absolument pas, est retenu en Thessalie, dans cet endroit, pour une raison indéterminée, rien n'en est dit, mais suffisamment contraignante et urgente pour qu'il requiert une aide suprahumaine, afin d'en réchapper rapidement. Et cette fois, vous remarquerez que l'alternative s'opère entre l'un des dieux et l'un des daimonos, destinataires des prières, sans référence au héros. C'est également le cas sur cette lamelle, elle aussi ajoutée au corpus par la publication de 2013. Et là, on a donc une question en tini, mais qui est une question directe. et auquel des dieux. Alors, est-ce que ça fait suite à une autre demande? On n'en sait rien, mais on a un cas là, qui commence la question. Et auquel des dieux ou des daimones sacrifiés pour agir au mieux et avec profit. Donc, nous avons toujours affaire à la formule Antini et à l'alternative d'une prière ou d'un sacrifice adressé à un dieu ou à un daimon. Une autre lamelle, toujours donc dans ce nouveau corpus de 2013, pourrait avoir mentionné une alternative entre daimonos et héros, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus lacunaire. C'est pour ça que je vous ai mis le dessin qui lui est attaché. Alors, la restitution me semble assez probable, et j'étais très heureuse qu'Éric Claude me la confirme, en bon connaisseur de ce corpus. Et donc, je lis la traduction avec vous, qui est celle d'Éric Claude, mais que j'ai modifiée à la dernière ligne. Dieu bonne fortune, donc nous sommes en pays connu, Dieu bonne fortune, Dikaios demande au Dieu, à propos de son salut et de sa santé, si la maladie dont il souffre, alors est grave, mais c'est dans la restitution, et quelle est cette affection? Mais là aussi, on peut supposer que c'est ça qu'il demande, puisqu'il interroge à propos de sa santé. Et lequel des daimonos ou des héros, il doit se concilier et se donner comme protecteur? Ça, c'est une formule tout à fait inusitée dans le corpus. Alors, on peut supposer que c'est pour recouvrer la santé. Bon. Donc, vous voyez trois lamelles qui viennent s'ajouter à celle des Vandross et nous permettent d'être un peu plus sûrs de nous dans l'interprétation de cette formule. Et donc, ce petit corpus s'appelle deux remarques. La première touche à l'hypothèse que je vous ai présentée d'une influence philosophique de la catégorisation à trois composantes, Dieu, Daimonos, Héros, dans la lamelle des Vandross. Les deux, voire les trois nouvelles lamelles, semblent l'exclure, puisqu'on n'a pas de catégorisation à trois éléments, mais bien à deux éléments avec le Daimon. Deux fois en alternance avec les dieux, une fois ici avec les héros. La seconde remarque concerne le statut du terme daimon dans ces différents documents que je viens de vous mettre sous les yeux, donc Evandros et les trois nouvelles lamelles. C'est bien comme destinataire potentiel d'un acte rituel que l'un des daimonos est mentionné au même titre que l'un des dieux ou des héros. Et donc, vous voyez que j'affronte ainsi, grâce à ce corpus de Dodone, je peux répondre à cette impression de paradoxe, cette impression paradoxale que j'évoquais en terminant le cours la semaine dernière. Ici, nous avons des cas d'une pratique. Alors, elle est en devenir, puisqu'on interroge l'oracle pour savoir à qui l'on doit sacrifier, à qui l'on doit adresser une prière, etc. Mais néanmoins, l'horizon d'attente, il est bien rituel. Alors, nous avons donc un corpus, au vu de toutes les lamelles qui nous ont été conservées, même si beaucoup ne sont pas lisibles dans leur entièreté, nous avons donc quatre lamelles avec les daimonos qui apparaissent. On peut supposer, je vous dis juste ça pour être complète dans mon parcours, dans la documentation, on peut supposer que, vu le nombre de cas où la catégorie d'être associé au dieu est perdue dans une lacune, on peut supposer que d'autres daimons se cachent peut-être encore dans notre documentation sans que nous ne soyons plus en mesure de les identifier. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici, sur cette lamelle, donc la 2282A du corpus grec, la restitution ici a été faite, donc vous voyez qu'après Théo, il n'y a plus rien sur la lamelle, enfin la lamelle est abîmée, et donc vous avez ici, les éditeurs ont ajouté Héroon. Vous voyez que dans la traduction, moi je n'ai rien mis, parce que fondamentalement, les lamelles que nous avons désormais à disposition ne permettent pas d'exclure que nous aurions là des daimonos. Et il y a quand même pas mal de lamelles où la lacune est au mauvais endroit, comme ici. Donc, on ne peut pas exclure qu'on ait eu davantage encore de présence des daimonos dans ce corpus. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les lamelles de Dodone ouvrent des perspectives que d'autres documents ne permettaient que d'entrevoir jusqu'ici. Par exemple, un décret, alors je vous ai remis qu'une ligne, un décret de Pharos, dans un îlot dans l'actuelle Croatie, reprenait une partie de questions posées à l'oracle de Delphes dans la deuxième moitié du IIe siècle, et vous voyez, on avait l'expression en tini. Tini theon etea thuon. Auquel des dieux, à quelle déesse sacrifier ? Donc, les démarches du type de celles qui ont été effectuées pendant des siècles auprès de Zeus et de Dionée en leur sanctuaire oraculaire se situent en amont des milliers de dédicaces qui ont été mises au jour dans le monde grec et qui fournissent les étapes ultérieures. Celles où on accomplit un sacrifice, celles où on présente une prière, une demande, une requête. Au sens large, évidemment, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les dédicaces que nous avons retrouvées dans les fouilles archéologiques ont été précédées d'une demande oraculaire. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Simplement, les consultations de Dodone avec ce genre de questions ont pu aboutir, à un moment ou à un autre, à une dédicace d'action de grâce de la part des consultants. Et nous savons désormais, je viens de vous le montrer, qu'une entité parmi le groupe générique des Daimonos est susceptible d'être convoquée au moment d'explorer le champ des possibles à côté des dieux et des héros. Parce que c'est ça, évidemment, qui est absolument fantastique dans ce corpus aride, mais tellement précieux, c'est que nous avons toute la potentialité du polythéisme qui s'y déploie, et toute l'angoisse aussi des consultants, dans cette masse d'interlocuteurs potentiels qui puissent choisir pour être efficace. Et dans cette masse d'interlocuteurs potentiels, on voit arriver les Daimonos. Alors, revenons donc aux lamelles portant le formulaire Antini. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formule « lequel des dieux » qui se taille la plus large part. Et on vient de voir qu'à cette catégorie, on pouvait s'ajouter les héros et les daimonos. Mais je voudrais, comme je suis à Dodone et que je n'y serai qu'aujourd'hui, et que ce corpus est relativement récemment venu à la connaissance des chercheurs, je voudrais m'attarder encore un peu sur des éléments d'information que nous trouvons dans ce remarquable ensemble. En effet, le corpus de 2013 a révélé que les consultants avaient fait la preuve d'une créativité intéressante dans l'évocation des catégories de destinataires de leur dévotion, avec diverses formules qui dépassent Dieu ou démon, ou Dieu tout seul, même Dieu Daimonos héros. Et je voudrais jeter un œil avec vous sur cette créativité qui est au cœur même du fonctionnement du polythéisme grec que j'essaie d'élucider en votre compagnie. Alors, un premier cas de modification de la formule standard, mais qui n'a de standard que le nom, le premier cas de modification que je veux vous soumettre est attesté donc par une lamelle datée de la deuxième moitié du 5e siècle par Éric Claude. Et quand j'indique le nom d'Éric Claude ou d'autres pour la datation, c'est que ça ne correspond pas à ce qui est donné dans le corpus de 2013. Et donc vous voyez ici une lamelle dont vous avez la reproduction, le dessin, Dieu Fortune, donc là on a l'invocation, Euclis, à propos de la santé et du salut pour lui-même, sa famille et ses biens, est venu demander à l'oracle, vous voyez, variation dans la formule Antini, auquel des dieux et des héros, là vous avez un kai que j'ai mis en évidence dans la traduction, il faut sacrifier et adresser des prières pour agir avec profit. Alors il est difficile évidemment d'affirmer que cette légère modification de la formule Antini a été sciemment conçue par le consultant. Peut-être est-ce simplement un glissement dans la rédaction de la lamelle. Mais si c'est sciemment conçu, le consultant envisage d'emblée d'honorer un être pleinement divin et un être héroïque afin de maximiser ses chances de succès. Voilà, on a, si vous voulez, ces lamelles, ce sont comme de légers coups de projecteur, mais parfois extrêmement fugaces, sur les questions que se posaient les Grecs anciens quand ils devaient honorer le monde, enfin des entités du monde supra-humain. Alors, une autre variation semble davantage être le fait d'un choix sciemment conçu. En effet, une petite vingtaine de lamelles offrent l'alternative Dieu-déesse. En voici quelques exemples parmi les moins restitués. Je lis les traductions avec vous. J'ai mis en évidence, en grâce, le grec, enfin les mots grecs qui recouvrent cette alternative. À propos des biens, lequel des dieux ou laquelle des déesses, priez pour que j'en acquière moi-même. Il y a un intérêt certain dans la question. Donc voilà un exemple où, pour cette question d'acquisition de biens, le consultant va offrir cette alternative dieu ou déesse. Deuxième exemple, du IIIe siècle, donc un peu plus récent. Un tel, on ne sait pas, on n'a pas conservé le nom, interroge Zeus, Naios et Dionée à propos de sa descendance à venir afin qu'elle soit assurée. Hein, vous voyez l'angoisse de ces gens dans un monde où l'accompagnement médical des parturientes était quand même extrêmement limité. Donc, afin qu'elle soit assurée, auquel des dieux ou à laquelle des déesses adresser ses prières pour qu'elle soit assurée. Ce ne sont pas des modèles de littérature. Hein. Donc, il faut assumer ça aussi dans la traduction. Donc, vous voyez ici, pour une descendance, autant pour les biens, bon, voilà, mais on voit que cette alternative, elle marche aussi bien pour l'acquisition de biens que pour avoir une descendance. Enfin, le dernier exemple que je veux vous montrer, qui est intéressant parce que je pense qu'il s'agit d'un oubli préalable. Vous allez voir. Dieu, Philoxénos, demande à Zeus, Naios et à Dionée auquel des dieux ou à laquelle des déesses il doit adresser ses prières pour agir au mieux. Et puis on dirait qu'il a eu un moment de lucidité. Ou auquel des héros. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Mais vous voyez ici, on est presque en prise directe avec cette incertitude. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de ces documents. Alors, et si elle n'était pas très fragmentaire, vous voyez, là je vous ai mis pour vous montrer à quel point nos collègues du projet Dodona Online sont méritants, parce que voilà le genre de choses auxquelles ils doivent être affrontés. Vous voyez l'état hein, de la documentation. Donc ici, voilà, si la lamelle n'était pas aussi lacunaire, on pourrait peut-être penser que seules les déesses étaient concernées par cette question dont on ne sait rien par ailleurs. Alors, la formule Antini, comme l'indique le nom qui lui a été donné, sollicite donc de Zeus et de Dionée le nom d'un interlocuteur parmi la pluralité disponible, indiquée la plupart du temps au génitif pluriel. Ici, vous avez une forme dorienne. Vous voyez, chaque fois, ici, vous avez le tini, puis vous avez le génitif pluriel. Ici, pour les héros, c'est encore plus clair. Alors, une des deux lamelles... on a aussi d'autres formules où c'est une formule mais qui est extrêmement apparentée à la formule Antini, mais la formule Antinas. Hein, voilà, ici. Donc, vous avez lesquels des dieux on peut prier. Et donc là, ce n'est plus la détermination d'un interlocuteur potentiel, mais de plusieurs, comme on avait tout à l'heure... Lequel des dieux et lequel des héros, ben là on avait un dieu et un héros. Ici, le consultant ouvre les possibilités. Donc on ne sait pas qui d'embrasser, à Zeus, Naios et à Diona, à propos de sa santé, de ses biens et de son avenir. Vous avez une préoccupation globale. Tant qu'à faire d'aller à Dodone, autant présenter l'ensemble de ses souhaits. Quel dieu il doit se concilier pour agir au mieux et avec profit. Alors, un exemple reprend également l'interrogation Tini sans complément. Vous voyez ici, c'est intéressant comme variation. Dieu fortune, Philistos, demande à qui il doit sacrifier pour agir au mieux avec profit. Et le dieu doit se débrouiller... pour lui répondre de façon pertinente. Alors, dans quelques exemples, le consultant soumet un choix déjà effectué, qu'il veut valider, dont il veut s'assurer la pertinence. C'est peut-être le cas de cette question posée par plusieurs consultants. Vous voyez ici, on a un participe pluriel. Donc plusieurs consultants assument la question. Mais malheureusement, elle est extrêmement lacunaire. Et on peut faire l'hypothèse qu'ici, donc en sacrifiant au dieu un tel, on peut supposer que dans la lacune se trouvait le nom du dieu que l'oracle était censé valider. Alors, dans les trois exemples suivants, dont les deuxième et troisième portent assurément une question posée par une femme, le dieu destinataire du rituel prévu est identifié. Mais les cas sont rares. La plupart du temps, c'est on laisse les possibilités totalement ouvertes. Ici, ce n'est pas le cas. Je lis avec vous. En priant et en sacrifiant, alors c'est très restitué, vous voyez les crochets de la restitution, mais on a le nom du dieu qui semble, avec une variante dialectale, le nom du dieu semble assuré. Donc en priant et en sacrifiant à Apollon, agirai-je avec profit. Ou encore, et ici vous avez des femmes, puisque vous avez des participes féminins, dont la terminaison est féminine, en me rendant réa favorable, cela ira-t-il pour moi ? Aurais-je du succès en offrant une dédicace à Artémis ? Vous voyez, toutes ces variations sont extrêmement intéressantes. Alors, cet autre cas, toujours dans le registre des variations, semble indiquer, je lis avec vous, donc Dieu, Fortune, Aiskos, consulte Zeus, Dodonaios et Diona pour savoir à quel héros sacrifier afin de bien agir pour sa santé, là, manifestement, le consultant semble flécher d'emblée la catégorie de héros. Et l'enquête oraculaire porte sur son identité précise. Donc, manifestement, il a des choses en tête. Et il attend du dieu qu'il les valide. Donc, vous voyez, un corpus absolument fascinant pour beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'histoire ancienne, mais pour ceux qui travaillent sur la religion grecque, sur l'histoire ancienne et sur la langue aussi, vous avez une manne d'informations pour les linguistes dans ces documents. Mais pour ceux qui travaillent sur la religion grecque comme moi, vous avez là une occasion presque unique d'être... d'être en contact avec un processus de délibération. Dans la plupart des cas, alors, on a le résultat de ce processus. Je l'évoquais tout à l'heure à propos des milliers de dédicaces que nous avons mises au jour, enfin que nous, qui ont été mises au jour. Ici, alors, on a aussi des processus qui sont explicites, dans les traditions narratives, dans les textes dits littéraires. Mais ici, nous avons quelque chose d'exceptionnel en ce sens qu'il s'agit d'objets concrets de la pratique rituelle qui reflètent cette pratique. Et c'est en cela que c'est évidemment exceptionnel et que on voit se faire jour, là, toute une série de questionnements, d'hésitations de la part des Grecs. Alors, si j'ai pris le temps de passer en revue ces différents cas où la créativité des consultants s'est déployée, même très modestement, c'est pour nous permettre, j'en arrive maintenant véritablement à l'intérêt de tout cela pour mon sujet, c'est pour nous permettre de prendre la mesure, autant que faire se peut, des quelques occurrences du terme de daimon dans cet ensemble. Et donc, pour récapituler, dans le cadre de nos intérêts de ce cours, récapituler les acquis de ce parcours et de cette analyse, je voudrais vous soumettre plusieurs remarques. Alors, dans le libellé des questions à l'oracle, qui concerne le choix donc, d'un interlocuteur suprahumain, la formule standard mais non contraignante, et quand je dis standard, c'est parce qu'elle est quantitativement la mieux attestée, est celle qui présente l'expression tini theon, auquel des dieux. Tini theon, je vais récapituler les différentes formules. Alors, les variations de cette formule standard que nous avons repérées ne sont pas toutes à mettre sur le même pied. Donc l'alternative que vous voyez ici sur la dia, tiniteon he heroon, est une variation dont le nombre élevé d'occurrences atteste qu'elle flirte en quelque sorte avec la formule, le statut de formule reçue. Hein, tiniteon est assurément ce qui est le mieux attesté, mais la formule, l'alternative est elle aussi bien attestée. Et elle relève donc cette alternative d'une catégorisation bien intégrée par les consultants aux périodes classiques et hellénistiques. C'est ça qui m'intéresse. L'importance de cette alternative montre que cette catégorie des héros est bien intégrée aux côtés de celle des dieux dans ce contexte. Alors, l'alternative tiniteon et théane, auquel des dieux ou à laquelle des déesses, alors elle est envisageable qu'en dialecte dorien, puisque seul ce dialecte permet de distinguer le masculin et le féminin au génitif pluriel. Et cette expression double est une déclinaison marginale du tiniteon, à laquelle, on l'a vu, avec l'oubli de Philoxénos, vient s'ajouter, dans ce cas-ci, les héros, viennent s'ajouter les héros, donc une sorte d'oubli rattrapé en dernière minute. Mais aucun thème saillant dans les requêtes ne permet de comprendre pourquoi tel consultant a choisi d'associer les déesses aux dieux dans l'hypothèse soumise à Zeus Naios et à Dionée. Donc ça, je dirais qu'on n'a pas d'éléments. Il n'y a pas de récurrence, de constante, d'éléments qui seraient perceptibles pour comprendre pourquoi dans certains cas on a les dieux tout seuls, pourquoi dans certains cas on a les dieux et les héros, pourquoi on a les dieux et les déesses. La variation peut attester du tinas théon, quel dieu au pluriel, ou l'expression qui est une fois attestée, tois théos epitrépon, on l'a vu en se tournant vers quel dieu, vers les dieux, ouvre l'hypothèse donc d'honorer plus d'un dieu pour affronter le ou les problèmes incriminés, mais là encore, aucun trait saillant de ces informations, de ces documents, ne permet de dépasser le constat que ces consultants-là ont fait preuve peut-être d'une plus grande prudence en contexte polythéiste, en incitant l'oracle à ne pas se limiter à un seul nom. Alors, si la catégorie des dieux semble être en mesure d'englober toutes sortes d'interlocuteurs suprahumains, quelques cas montrent, je vous les ai mis sous les yeux, qu'un héros était peut-être déjà en vue, voilà l'expression que je vous remets sous les yeux, dans la manière dont le consultant a libellé sa question, puisqu'il s'est limité à cette catégorie-là. Le tiniteo se rapporte évidemment plutôt à cette formule-là. Donc, sur cet arrière-plan, que nous apprennent les documents où apparaissent les daimonos. Alors, le cas des Vandros reste assurément exceptionnel, en ce qu'il est finalement le seul à structurer le champ des possibles en trois catégories distinctes, les dieux, les héros, les daimonos. Le cas de Damainetos, portant donc la requête d'un certain Proxénos, et celui, non, je ne l'ai pas mis, d'un consultant anonyme, hein, c'était l'autre lamelle que je vous ai montrée, s'inscrivent, donc ces deux cas, s'inscrivent dans une structuration à deux termes, comme celle qui rassemble les dieux et les héros, ou les dieux et les déesses. On fera l'hypothèse que dans ces deux textes, donc celui-ci et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, la catégorie de daimon est venue se substituer à celle de héros. Ça ressemble à ça. Et il faudra comprendre pourquoi. Pour le moment, je constate ce fait. Voilà une possibilité qui s'offre à nous dans l'analyse de ces documents. Donc, quoi qu'il en soit de cette dernière question, que je laisse ouverte pour l'instant, parce que c'est l'enquête globale qui nous permettra de la reposer le moment venu, ces textes, et c'est ça évidemment qui m'intéresse de souligner aujourd'hui, ces textes attestent que la notion de daimon n'est pas indépendante de toute épaisseur cultuelle, du moins dans l'intention de celui qui souhaitait clarifier auprès de l'oracle de Dodone les termes de son commerce avec le monde suprahumain, puisque nous avons affaire à des intentions. dans le cas de ces documents. Cela signifie que, dans l'étape exploratoire et expérimentale qui consiste à identifier pour les Grecs un interlocuteur suprahumain, la notion de daimon peut parfaitement être mobilisée. Elle peut être convoquée à côté de celle de Théos ou de Héros par un acteur rituel aux périodes classiques et hellénistiques. Dès lors, et j'en arrive à ma conclusion d'aujourd'hui, l'absence du daimon comme destinataire cultuel que Marcel de Tienne avait vigoureusement souligné en faisant un argument fort, souvenez-vous de la leçon de la semaine dernière, en faisant un argument fort pour faire du daimon ce qu'il appelait un signifiant flottant, cette affirmation, donc cette absence du daimon, doit être à tout le moins nuancée par les données que nous avons ici sous les yeux, puisque la notion est susceptible d'être activée au moment de la conception d'une question oraculaire qui évoque une démarche culturelle à poser. Évidemment, il nous faudra comprendre, dans les semaines qui viennent, pourquoi les phases d'actualisation, de concrétisation des démarches en question ne mobilisent pas la notion comme telle dans la documentation. Parce que là, De Tienne a raison. C'est-à-dire que quand vous regardez ces milliers de dédicaces que j'évoquais tout à l'heure, hormis dans certaines dédicaces métriques qui renvoient à de la poésie, on n'a pas la notion de daimon comme telle. Il faudra donc comprendre pourquoi cette notion comme telle n'apparaît pas dans nos documents, alors que dans les intentions de ceux qui se préparent à honorer une entité suprahumaine, cette notion est susceptible d'arriver. Pas très souvent, je vous l'accorde, au vu de l'ampleur du corpus que j'ai évoqué et les quelques éléments que je viens de vous soumettre, mais elles sont là. Ces occurrences sont là. Et donc, il faudra comprendre pourquoi ces phases d'actualisation ne mobilisent pas la notion comme telle dans la documentation qui parle des cultes effectivement, des actes de culte effectivement posés, que ce soit à l'échelle des collectivités ou des particuliers. Et dès la semaine prochaine, nous allons reprendre le fil de l'investigation en partant des textes littéraires et nous commencerons, comme de juste, par Homère. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine.